Ah, la technologie.
Ok, on va prier pour lui.
Wow.
Seigneur, nous te prions à ce que tu puisses mettre ce que tu as dans ton cœur, dans son propre cœur, Seigneur, et qu'il puisse nous partager cela. Nous te prions, Seigneur, à ce que tu mettes ta main sur lui et que nous puissions également avoir un cœur ouvert à tout ce que tu veux nous partager aujourd'hui. Merci, Seigneur, parce que nous savons que tu es un Dieu vivant et que tu parles et que tu peux parler au travers de nous tous, tes serviteurs, et nous te prions, Seigneur, à ce que tu sois avec Denis aujourd'hui pour cela. Amen.
Amen. Bon, la technologie n'est pas avec moi. Heureusement, j'ai un plan B. Ah, je vais le régler, mais ça va prendre un peu de temps, donc j'ai pas envie de perdre de temps. Donc, j'ai un plan B. Non, mais ça va, c'est bon. Voilà le plan B. C'est la meilleure des choses qui existent, c'est le papier et le crayon. Au moins, avec ça, on se trompe pas. Bon, je vais essayer de vous encourager. J'ai vraiment envie de vous encourager. Et en préparant ce message, Dieu m'a donné un texte qui m'a étonné un petit peu au début, mais qu'on va lire, et c'est un texte que vous connaissez tous. C'est dans Matthieu 25, les versets 14 à 30. On va lire ce texte-là, c'est la parabole des talents. Voilà. Donc je vais le lire. Ça va, il n'y a pas besoin de traduire autrement. On le lit en français, ça va aller. En swahili. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 talents à l'autre et 1 au troisième, à chacun, selon sa capacité, et il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné, j'ai eu peur. Et je suis allé cacher ton talent dans la terre, voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Ça, c'est un passage qui est intéressant dans le sens où Dieu nous parle de talent. Alors, on a l'habitude de dire les talents, celui-là a tel talent, c'est un bon chanteur, celui-là c'est un bon comédien, celui-là c'est un bon peintre, etc. Mais à l'époque, les talents c'était des pièces. Et c'était des pièces d'or. Et j'ai fait un petit peu une recherche sur Internet pour savoir quelle valeur avaient ces talents. Et j'ai été très surpris d'apprendre ce que j'ai appris. Alors, il y a tout un processus entre archéologues, entre d'autres scientifiques qui ont vraiment fouillé l'histoire et ils arrivent à une conclusion, c'est que le talent d'or vaut, un talent vaut 30 000 euros. Ça veut dire que ça vaut 120 millions d'ariars. Une pièce. Énorme. Il y en a un qu'on a reçu 5. L'autre qu'on a reçu 2 et un qu'on a reçu 1. Bon. Les talents, c'est ce que Dieu, c'est ce que ce maître-là a donné à ses serviteurs alors qu'il partait en voyage. Et j'aimerais qu'on fasse un parallèle avec notre maître à nous, avec Jésus. Jésus est parti rejoindre son Père après la résurrection. Il est assis à la droite de Dieu et il est au-dessus de toute autorité, de toute domination, de tout ça. Et puis, il a laissé des talents aux hommes. La foi est venue dans le monde, c'est un des talents. La foi, c'est important. Et la foi, c'est pas quelque chose où on se dit, moi j'ai la foi. On trouve pas la foi comme ça. On n'a pas la foi parce qu'on décide d'avoir la foi. On a la foi parce qu'un jour Dieu vient dans notre vie. Et ce jour-là, on sait que Dieu existe. Et on commence à creuser sa parole. Donc ça, c'est le premier talent. Alors que personne d'ici dise, moi j'ai pas de talent. Si t'es chrétien, t'as déjà un talent. C'est la foi. Après, il y a d'autres talents qui vont venir se greffer. Des talents naturels et des talents spirituels. Mais ça, c'est l'affaire de Dieu. En tout cas, ce sont des choses que Dieu nous a données et nous en avons tous reçues. J'ai connu des handicapés qui avaient vraiment des talents. Il y a un acteur trisomique en France qui est très connu et qui est un excellent comédien. Et on pourrait citer plein d'autres choses comme ça. Dieu donne des talents aux hommes, qu'on soit absolument, je dirais, conformes, mais Dieu donne aussi des talents à ceux qui sont moins conformes. Et c'est formidable. Ça, c'est l'affaire de Dieu. Donc ne dites pas, j'ai pas de talent. Vous avez des talents. Dieu vous a donné des talents. Et je vais vous encourager à les découvrir. Donc, quel est le but, quand on lit cette parabole, quel est le but de ces talents? On voit bien qu'il y a un but derrière, les faire fructifier. On voit, puisque le maître est content quand il rentre, parce que celui qui en avait cinq, il a réussi à en gagner cinq autres. Donc, son maître lui a donné quelque chose et lui en a fait quelque chose de bien. Et c'est précisément ça que Dieu, lorsqu'il vient dans notre vie, lorsqu'il nous donne des choses, lorsqu'il nous donne des sons, des dons, pardon, j'ai un petit peu la bouche sèche. Les dons que Dieu nous donne sont précieux. La foi, vous savez que la foi, c'est pas simplement croire. Si je prends le don de la foi, c'est pas simplement croire. Hein? C'est quoi d'autre? C'est là?
La mise en action.
Oui, mais pas seulement. Vous avez une idée? Il y a deux éléments importants dans la foi. Il y a croire, bien sûr, mais la Bible dit que les démons croient aussi. Mais les démons, ils croient, mais ils ont peur. Hein? Mais quand Dieu donne la foi à quelqu'un, il associe aussi la confiance. Hein, c'est deux éléments liés de la foi. Si j'ai la foi, je crois ce que Dieu me dit et je fais confiance à ce que Dieu me dit. Ça, c'est important. Donc, c'est un don extraordinaire. Maintenant, on va revenir à cette parabole. Qu'est-ce qu'elle nous révèle ? Elle va nous révéler une chose très importante. Nous allons utiliser nos talents et agir selon la connaissance que nous avons du Maître. Autrement dit, que nous avons de Dieu. Les deux premiers savent qu'ils ont un bon Maître. Ils le savent. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas, mais mettez-vous à la place de celui qui a reçu 5 talents, 150 000 euros. Il aurait pu dire, c'est sympa, eh ben ciao, je vais aller de l'autre côté de la planète, je vais bien m'amuser, maintenant j'ai de l'argent, je vais, voilà. Mais non, il y a une confiance qui est installée entre le maître et cette personne. Pourquoi? Parce que au-delà de la confiance, il y a un respect vis-à-vis du maître, il sait que son maître l'aime, parce que s'il ne l'aimait pas, il n'aurait pas donné 5 talents. S'il savait que c'était quelqu'un à qui on ne pouvait pas faire confiance, qui a la tête en l'air ou je ne sais pas quoi, il n'aurait jamais fait ça. Mais il a conscience que son maître l'aime. Et c'est pour ça qu'il va faire fructifier. Il se dit, mon maître m'en a donné 5, c'est super, c'est une bonne base. Avec cette base-là, je vais en récupérer 5 autres. Et il a réussi. Et son maître, quand il rentre, il lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Je t'ai donné peu de choses, mais maintenant je vais t'accorder des choses bien plus grandes parce que tu m'as fait confiance. Et c'est ce que Dieu veut faire pour nous. De la même façon, que ce soit, si nous sommes fidèles dans ce que Dieu nous donne, Dieu est fidèle dans sa parole. C'est pas pour rien que Jésus nous laisse cette histoire. C'est une histoire, mais il ne nous la laisse pas comme ça au hasard en se disant, voilà, on va leur faire une belle petite histoire comme on raconte une belle histoire à un enfant avant de dormir. C'est pas ça. Dieu a vraiment ses motifs. Donc, les deux premiers savent qu'ils ont un bon maître, que ce maître les aime, et ils veulent honorer leur maître. Parce que c'est ça aussi. Hein? Quand on a un bon maître, on a envie de l'honorer. On a envie de faire des choses qui lui fassent du bien, quoi. C'est, voilà. Notre maître, Dieu. Le Seigneur, il n'est pas simplement là. Il y a des gens qui sont chrétiens, j'en connais. Et quand tout va bien dans leur vie, le travail va bien, ils gagnent de l'argent, ils ont tout ce qu'il faut, tout va bien. Bon, Dieu, ça, oui, le Seigneur Jésus, il est venu nous sauver, etc. Mais dans leur vie, on voit qu'il n'y a pas une relation. On voit que rien n'est vraiment formé et soudé et fondé. Et puis, quand il y a un pépin, ils se mettent à genoux et commencent à prier. « Seigneur, tu vois, j'ai perdu mon boulot, redonne-moi un travail, etc. etc. » Ça, c'est ce que j'appelle le Dieu béquille. Vous connaissez ça? Il y a des gens qui ont... Dieu, c'est des béquilles pour eux. Quand ça ne va pas, ils prennent des béquilles. Ils parlent à Dieu. Mais quand ça va bien, ils lâchent les béquilles, et puis ils les mettent dans un coin, et s'ils en ont re-besoin, ils iront les rechercher. Donc ça, ce n'est pas très juste. Le troisième, il nous dit quelque chose de vraiment important. Il dit, « Je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur. » Ah, il a eu peur. Est-ce que vous avez peur de Dieu? Parce que si vous avez peur de Dieu, vous savez que la peur, qu'est-ce que ça fait? Ça paralyse. Vous connaissez tous l'histoire du serpent et de la souris. Les petites souris, elles sont capables de partir à toute vitesse et fuir le serpent sans problème. Le serpent n'ira pas aussi vite qu'elle. Et surtout qu'elle, elle a la possibilité de prendre des virages à 90 degrés, que le serpent aura un peu plus de mal avec son long corps. Elle peut s'échapper. Mais vous savez pourquoi le serpent, il attrape la souris? Parce qu'elle a peur. Elle est tétanisée. Elle ne bouge plus. Elle est là, elle a vu le serpent, elle ne bouge plus. Le serpent est bien tranquille, hop, et il avale. C'est exactement ce que fait la peur. Et la peur, c'est l'antithèse de la foi. Ou si vous préférez, c'est la foi du diable. C'est le diable qui donne la peur, c'est pas Dieu. Quand on lit dans la parole de Dieu, la crainte de l'Éternel, c'est pas la peur. La crainte de l'Éternel, c'est pas la peur, c'est révérer le Seigneur, c'est lui apporter nos louanges, c'est dire à ceux qui sont autour de nous combien on l'aime parce qu'il est extraordinaire. Et on révère Dieu, il est dans notre cœur, au fond de notre cœur. Pourquoi? Parce qu'on sait qui il est. Donc la peur n'a rien à voir, mais lui, il a eu peur. Terrible. Donc, si vous avez peur, peut-être qu'il y a des gens parmi nous qui ont peur de Dieu. Ça peut exister. Hein. Moi, j'en connais des chrétiens qui ont peur de Dieu. Hein. Et on va au culte parce qu'on ne sait jamais, si je ne vais pas, il va m'arriver des bricoles. Ou je fais ci ou fais ça parce que Dieu le demande et si je ne le fais pas, il va m'arriver encore des bricoles. Et ça, c'est dans notre monde chrétien. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. La peur, on peut y remédier, on peut l'évacuer de notre vie, il n'y a qu'un moyen. C'est la relation avec Dieu. C'est la prière. C'est l'étude de la parole. Regardez ce que Jésus dit dans Matthieu 6, au verset 6. Oups, voilà. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Est-ce que ça fait partie de nos habitudes? Ça devrait faire partie de nos habitudes. Et pas une fois à Noël et une fois à Pâques. Hein? Ce qui est bien, c'est de faire ça chaque jour, réellement chaque jour. C'est important de rentrer dans cette chambre, d'être dans le secret avec notre Dieu, et là, on a une conversation avec lui. Parce que la prière, c'est ça. C'est avoir une conversation de cœur avec son Père Céleste. Si c'est pas ça, c'est pas la peine. Si je rentre dans ma chambre, je ferme ma porte à clé parce qu'on m'a dit d'aller là, pour faire, puis passer dans le secret, ou ah voilà, etc. Ça peut devenir à nouveau quelque chose de très religieux. Et ça, ça marche pas. Dieu veut qu'on ait une relation de cœur avec lui. Et je dirais que c'est même l'un de ses principaux buts vis-à-vis de l'homme, c'est que l'homme retrouve cette relation de cœur avec lui. De savoir qui il est vraiment. Et Kim nous a fait la joie de nous apporter pendant plusieurs dimanches d'affilée, le thème c'était « Qui est Dieu ?» Et il a vraiment apporté toutes les facettes de qui est Dieu. Mais c'est extraordinaire. Il a su le faire vraiment avec diligence, je dirais avec intelligence, et c'était vraiment des messages de l'Esprit, du Saint-Esprit, inspirés. Des messages inspirés. Je sais que ça fait du bien à beaucoup de monde. Et si vous n'avez pas entendu ces messages et que vous comprenez l'anglais, allez sur le site de TCC et réécoutez ces prédications. Parce que toute la clé, c'est connaître Dieu. Qui est Dieu vraiment? Alors, ce troisième gaillard, il n'a pas cette relation avec le Père. Il va pas. Il n'a pas eu une relation intime avec son maître. Il ne le connaît pas. Il ne sait pas. Il ne sait pas, c'est son patron. Et à la fin du mois, il a son salaire, il est content, et puis il s'en va. Voilà, on connaît tous des gens comme ça. Si vous avez des employés, vous connaissez ceux qui sont bons et fidèles, et vous connaissez ceux qui viennent simplement comme ça, pour faire ce qu'il y a à faire, mais il ne suffit pas d'avoir beaucoup de discernement, mais ça se remarque et on le sait. Il dit dans ce verset-là, qui était affiché là tout à l'heure, il dit « Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Ça, c'est important. Parce que si tu as une relation avec le Père, et si tu parles avec lui dans un cœur à cœur, Dieu va répondre. Il va te le rendre. Si tu as peur, il va renforcer ta foi. Il va te dire « Tes craintes, ça sert à rien. Là. Tu vas pas avancer avec ça. Marche par la foi. » Mon juste marchera par la foi. Et Dieu va fortifier ta foi et te permettre d'avancer. Et Dieu va répondre à chacun de nos problèmes. Dieu est capable de répondre à chacun de nos problèmes. Il n'y a rien qui est trop énorme ou trop gros pour venir à notre secours. Il en a décidé ainsi. Donc c'est important. Hein? L'utilisation de nos talents va dépendre de la connaissance que nous avons de notre Père. Si nous connaissons son amour, sa patience, sa fidélité, autrement dit, qui il est vraiment, alors il n'y a pas de souci. On va réagir comme les deux premiers serviteurs, exactement de la même façon. On va faire fructifier ce que Dieu nous donne. Pourquoi? Parce qu'on a envie de glorifier Dieu, on a envie que les choses évoluent dans le bon sens. On peut utiliser nos talents ou les talents que Dieu nous a donnés pour nous-mêmes. Vous savez ça? Dieu nous donne des talents, on peut les utiliser pour nous-mêmes. Dans la musique en particulier, j'en connais beaucoup comme ça. Des gars qui ont reçu des talents énormes, et plutôt que se dire ce talent, Il m'a été donné pour glorifier le Seigneur, pour louer, pour amener les gens dans la louange. Et il y a du plaisir à faire ça. Il y a vraiment une vraie joie. Mais plutôt que de faire ça, ils se disent, moi je vais percer. Je vais devenir le bon des bons, le meilleur des meilleurs, et je vais avoir mon affiche quelque part, en gros, voilà, hein, son fan club et tout, sur Facebook, etc., etc. Il y a des gens qui recherchent ça. Mais ça, si je fais ça, honnêtement, hein, et ça, je vous le dis parce que je sais de quoi je parle, si vous faites ça, vous enterrez le don que Dieu vous a donné. C'est sûr. Vous en faites quoi? Rien, c'est pour vous-même. Et Dieu ne nous fait pas des dons pour nous-mêmes, il nous fait des dons pour les autres, pour édifier, pour exhorter, pour encourager, pour aimer, tout simplement. Ça, c'est le chemin de Dieu. Mais si nous connaissons Dieu, si nous connaissons notre Père Céleste, nous connaissons son but. Alors tout le monde va me dire, oui, mais le but de Dieu, c'est de sauver le monde, c'est de sauver les hommes et tout ça. Oui, d'accord. Mais pas seulement. Dieu a un plan. C'est Jésus qui bâtit son Église. Et pour bâtir son Église, Jésus, il a besoin de qui? Il a besoin de toi. Oh, il n'aurait pas besoin de toi, il pourrait susciter des pierres pour le faire. Mais il nous fait le privilège, l'énorme privilège de nous dire, tiens, tu veux pas être une pierre vivante dans l'édifice que je veux construire? C'est ça. Et là, je vais faire fructifier les dons qu'il m'a donnés pour que l'Église, pas le bâtiment, mais la communauté, les chrétiens de tous les bords, là où je suis, je puisse les édifier, les exhorter, leur montrer qui est Dieu vraiment, selon les dons que j'ai. Et ça, c'est extrêmement important. Si son but, c'est aussi le nôtre, alors les talents et les dons qu'il nous donne prennent du sens. Notre vie aura du sens. C'est moins pratique que l'écran, mais ça va quand même. Ouais, on est revenu en arrière, toi. C'est pas grave. Alors, j'aimerais que vous fassiez quelque chose. Pas maintenant, tout de suite, devant moi. Mais quand vous serez rentré chez vous, faites cette expérience. Dressez la liste des dons que Dieu vous a donnés. Vous êtes capable de faire ça? Hein, c'est important. Vous connaissez vos dons? Et puis, si vous dites, moi, j'ai pas de don particulier, etc., restez pas là-dessus. Mais priez et dites, Seigneur, révèle-moi les dons que tu m'as donnés. Parce que pour faire fructifier un talent, il faut l'avoir dans la poche. On est d'accord? Donc si le talent, il n'est pas dans la poche, comment on va le faire fructifier? On ne va pas pouvoir. Donc il faut le connaître. Et Dieu peut nous le faire connaître d'une manière extraordinaire, parler à notre cœur. Alors moi, j'ai connu des gens qui disaient, moi, j'ai pas de don, absolument pas de don. J'ai entendu ça de quelqu'un qui m'est très proche, mon épouse stouflante. Mais en fait, c'est faux, c'est complètement faux, parce qu'elle a plein de dons. Elle est époustouflante. Elle a des dons qui sont époustouflants. C'est pour ça que c'est mon épouse stouflante. Bon, c'est un jeu de mots. Ouais. Hein? Mais l'organisation. Est-ce que vous avez le don d'organiser les choses? Vous avez? Hein? Il y a des gens qui l'ont, puis il y a des gens qui ne l'ont pas. Bon, moi j'arrive, si on me demande d'organiser quelque chose, je vais y arriver. Mais alors ce qui est étonnant avec ma femme, c'est que si on parle d'un projet que je dois organiser et faire des choses, elle va me révéler des trucs que je vois pas. Elle va me dire, mais t'as pensé à ça, t'as pensé à ça, t'as pensé à ça, t'as pensé... Ah ben non, non, pas comme ça, pas comme ça. Donc c'est précieux, c'est un don qui est précieux. Et je l'encourage à ce qu'elle continue à aller dans cette direction-là, parce que Quand quelque chose est bien organisé, ça se passe bien en principe. Hein? Quand on fait les trucs à l'arrache, vous savez, ça pose plus de problèmes. Hein, les musiciens, vous connaissez ça. Hein? Ça pose un vrai problème. Hein? Mais si c'est bien préparé, si c'est bien organisé, si les gens savent qu'ils ont un jour de répétition, qu'ils doivent être là, s'ils connaissent les morceaux qui vont être travaillés, qu'ils ont pu déjà les travailler avant d'être à la répétition. À la répétition, ça va être du gâteau parce que ça sera que de la mise en place. Ça sera qu'un travail de mise en place. Et ça c'est super. Mais c'est dans tous les domaines, c'est comme ça. Absolument dans tous les domaines, c'est comme ça. Alors posez-vous cette question, hein. Qu'est-ce que Dieu m'a donné? Quel est le don que Dieu m'a donné pour que je le mette au service des autres? Et puis quand vous aurez votre nom, il y a 7 principes qu'il faut bien connaître. Il y a le principe de la propriété. Vous connaissez le principe de la propriété? Tout ce que j'ai, ça appartient à Dieu. Ça, c'est le principe de la propriété. C'est ça, ce que je vous dis. Tout ce que j'ai, ça appartient à Dieu. Ça ne m'appartient pas. C'est la propriété de Dieu et il m'a simplement confié ça. Que ce soit ton compte en banque, que ce soit le projet que tu as mis sur pied, que ce soit quoi que ce soit, c'est la propriété de Dieu. Et si c'est la propriété de Dieu, ce qui est extraordinaire, c'est que si tu fais partie de ces serviteurs qui aiment leur maître, le maître va vous le rendre. Il va vous aider. Parce que ce que Dieu nous demande, il nous donne les moyens de le faire. Parce que, faut pas vous leurrer, toutes vos ressources, peut-être que tu te dis, moi je suis intelligent, j'ai fait des études, j'ai fait ci, j'ai fait ça, voilà, je suis ce que je suis quelqu'un de posé, j'ai pas peur de la vie parce que je sais que j'ai des ressources. Mais tes ressources, elles viennent de où? La source de nos ressources, c'est qui? C'est Dieu. Donc c'est à lui que revient encore une fois la gloire. Donc la propriété. Ensuite, il y a la répartition. Ça c'est hyper important. Vous savez, Dieu a un plan. Il a un plan. Moi je le connais pas parce que ses pensées sont au-dessus des miennes. Ses idées sont très loin des miennes souvent. Mais Dieu a un plan. Il veut sauver le monde. On sait. Jésus est venu pour sauver le monde par amour. Et il fait tout, mais Dieu va arriver à ses fins. Pourquoi? Parce que c'est comme un architecte. Il sait que dans tel endroit du bâtiment, il faut qu'il place la pierre angulaire. Il faut qu'il fasse les fondations avant de monter les murs. Il sait que dans les fondations, il y aura telle et telle chose. Et nous, dans la construction que Dieu est en train de faire dans son église, on a notre place. Nous sommes des pierres vivantes, c'est la Bible qui le dit. Donc ça veut dire que nous avons un rôle vraiment particulier à jouer et que ce rôle particulier à jouer, c'est Dieu qui le connaît. Alors, répartition, mais pas comparaison. Hein? Il y a des gens qui ont reçu le don d'évangélisation. Mais ce n'est pas tous des Billy Graham. Et le problème, c'est que le gars qui a commencé à faire son travail d'évangéliste, qui regarde aux gens qui sont arrivés à des résultats, il dit « Oh, j'aimerais bien être comme eux. » Ben non. Dieu ne te demande pas d'être comme eux. Il te demande d'être toi. Parce que nous sommes uniques devant sa face. Donc, on a un travail unique à faire et c'est Dieu qui va le faire. Donc, on ne va pas se comparer. De toute façon, si tu te compares, pour les musiciens, ça va leur parler aussi. Si tu te dis, ouais, je suis bon là, ça marche bien, hein? J'ai une bonne voix, je suis un bon pianiste, je suis un bon guitariste, je suis un bon bassiste ou un bon batteur, hein? Tu trouveras toujours quelqu'un de plus fort que toi, tout le temps. Et c'est normal, et c'est bien comme ça, c'est vraiment bien comme ça, c'est ce que Dieu veut. Mais ce que tu es, ce que tu sais faire, fais-le. C'est tout ce que Dieu nous demande de faire. Fais-le avec tes propres moyens. Moi, l'autre jour, on a rigolé avec Tuzo parce que je disais, wow, t'as entendu le message de Kim, moi, pff, purée, ça c'est quelque chose, c'est du steak, puis moi je dois prêcher dimanche. On a rigolé là-dessus, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Tout de suite, on a toujours tendance à se comparer aux autres et à se trouver inférieur. Et on fait le jeu de qui, là? fait le jeu du diable. On fait le jeu du diable. Si tu te compares et que tu te trouves inférieur aux autres, il a gagné, il est content. Lui, il va pas faire grand-chose. Il va rester dans son coin et il va s'arrêter sur son truc. La troisième chose, après la propriété et la répartition, c'est la redevabilité. Nous sommes redevables. Dieu, un jour, nous demandera, mais qu'est-ce que tu as fait des talents que je t'ai donnés, des dons que je t'ai donnés? Est-ce que tu les as mis en pratique? Est-ce que tu les as fait fructifier? Est-ce que tu as... Voilà, c'est où? La redevabilité. Et nous serons tous redevables devant Dieu. Je ne vous parle pas de salut, là. Le salut, c'est Jésus qui nous l'a acquis. Et il est acquis par grâce. La seule condition du salut, c'est que je crois que Jésus, c'est le Fils de Dieu et qu'il a payé le prix de mon péché. Dans l'instant où je crois ça, je suis sauvé. Mais après, on devra rendre compte de comment on a mené notre vie, qu'est-ce qu'on a fait. Alors il y aura sûrement, comme nous tous, hein, il y aura sûrement des endroits où le Seigneur va dire « Oui, bon, fidèle serviteur, rentre dans le repos et la joie de ton maître. » Et puis il y a des autres endroits où il aurait dit « Ouais, tu aurais pu faire mieux quand même. » Là, tu t'es pas foulé. Hein, c'est normal. C'est normal. Il nous fera de toute façon un débriefing de ce que nous avons pu vivre. L'utilisation. Il est faux d'enterrer son don. Parce que si on enterre notre don, on fait comme le troisième homme, et ce que Dieu nous avait donné, ça va nous être retiré. Ça, c'est moins drôle, quoi. Ça, c'est moins drôle. Mais ne vous culpabilisez pas, hein. Je vois des visages qui se défont. Et wow, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que j'ai enterré mon talent ou pas? Si tu es là, tu ne l'as pas encore enterré. Parce que si tu l'as, tu peux toujours le faire fructifier. Tu as encore du temps. Hein. Bien que j'ai un ami... c'est un bien grand mot. C'est quelqu'un que j'aime bien, que j'ai rencontré. C'est un musicien qui est connu dans le domaine du blues. C'est le père du blues, the British blues father, ou quelque chose comme ça. Hein. C'est lui qui a amené le blues dans les années 60. En Angleterre, et puis ça s'est propagé, puis c'est un très bon musicien, et puis il vient de faire un CD, et il a écrit un morceau qui s'appelle « Personne ne m'avait dit, nobody told me, personne ne m'avait dit que la vie était si courte ». Il a 86 ans, hein, et il dit « Personne m'a dit que la vie c'était si court ». Ah, 86 ans, il fait encore de la musique, il va encore sur scène. Étonnant. La vie est courte. La vie est très courte. Et moi, ça me parle parce que j'ai dans ma tête 25 ans, puis quand je me regarde dans la glace le matin, je me dis, gars, t'as des heures de vol. Hein. Hein? C'est normal. La vie passe. Donc, nos motivations, éviter la peur, comme je vous ai dit, mettre notre foi en pratique, refaire, ne pas faire ce que le troisième homme a fait, et puis, le dernier point qui est important, c'est la récompense. Parce que Dieu a une récompense, il est question de récompense. Et Dieu veut nous donner des récompenses. Mais où est mon cœur? Où est ma vie? Qui est-ce qui règne en premier lieu dans ma vie? Est-ce que c'est Dieu? J'aurais voulu vous parler, puisqu'on parlait d'or et d'argent. Jésus nous dit quelque chose d'hyper important. Il nous dit, vous ne pouvez pas adorer deux maîtres à la fois. Hein? Ou bien vous allez haïr un et aimer l'autre. Ou bien, il dit, vous allez, j'ai oublié. Enfin bref, quoi. On ne peut pas aimer deux maîtres à la fois. Donc, qui est-ce qu'on aime? Dieu ou Mammon? Et Mammon, on peut dire, c'est pas seulement l'argent, mais c'est aussi toutes les idoles que ce monde peut nous offrir. Et il y en a des idoles. Alors, l'homme moderne, il dit, non, moi, j'ai pas d'idoles. Les idoles, c'était du temps de l'Antiquité, où les gens se faisaient des dieux qu'ils mettaient sur des tablettes, des petites statuettes comme ça, et ils disaient que c'était leur dieu. Bon, la Bible dit Dieu rigole parce qu'ils ont des yeux, ils ne voient pas, des oreilles, ils ne voient pas, une bouche, ils ne parlent pas. Non, non, mais ça, c'était l'Antiquité. Mais aujourd'hui, les hommes ont des idoles. Les maisons, les voitures, les voyages, toutes sortes de choses. Hein? Voilà. Mais si Dieu a la place dans notre vie, si on est attentif, et je pense qu'on peut l'être, si on a un cœur pour Dieu, si on est comme les deux premiers serviteurs, ça veut dire qu'il a de l'importance dans notre vie. Et si Dieu a de l'importance dans notre vie, ça veut dire qu'on est sur le bon chemin. Ça veut dire que Dieu aura des récompenses. Ça veut dire que si je découvre mes dons, je vais les mettre en pratique, forcément, puisque je connais mon Dieu. Et que Dieu, un jour, saura nous dire, c'est bon, c'est bien, mon bon et fidèle serviteur. Hein? Je vais te confier beaucoup. Rentre dans la joie de ton maître. Amen. Voilà, je ne vais pas vous casser les pieds plus longtemps. On va prier. Hein? Seigneur, merci parce que on peut. Merci pour ta parole. On peut faire apporter ta parole et c'est toi qui parle dans les cœurs avec ton Esprit Saint. Peu importe la façon dont les choses sont dites, mais tu es là présent. Merci de ce qui est important, ce qui vient de toi, Seigneur, puisse pénétrer chacun de nos cœurs. Merci, Seigneur, de nous aider à avancer. Merci pour cette semaine qui est placée devant nous. Merci de raccompagner ceux qui sont venus, les raccompagner dans leur maison, dans leur foyer, en toute sécurité, par ta grâce, Seigneur. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen.
Okay. Nous remercions le Seigneur pour ses paroles qui nous a dites au travers de